Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast Découverte avec Frédéric, où je partage mes découvertes avec mon chat Grisou, mon amie Véronique et toi. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Si tu écoutes cet épisode à la date qu'il est sorti, on est le 9 mars. Et si tu vis pas dans une coquille depuis plusieurs années, tu devrais te souvenir que le 8 mars est la journée internationale du droit des femmes. Souvent aussi, on se mélange puis on l'appelle la journée des femmes, mais en fait non, c'est la journée du droit des femmes. Alors, comme tu peux t'en douter, aujourd'hui, on va parler du droit des femmes, mais si tu me connais bien, tu peux trouver ça surprenant parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup politique et qui se mêle beaucoup à la politique et qui est très au courant de la politique, etc. Mais moi, j'aime l'histoire. Donc, on va parler de l'histoire surtout. Si tu trouves que ça vire trop politique, ben je m'en excuse. En même temps, j'ai un parti pris là-dedans en étant une femme. Donc, on va y aller avec ça aujourd'hui. C'est un sujet qui m'est popé. En fait, c'est une découverte qui m'est venue tout droit de Charles Beauchesne. Merci, Charles, si tu m'écoutes. Dans le spécial série hors série, si je peux dire, sur la Révolution française. Donc, Charles Beauchesne a fait 3 épisodes des pires moments de l'histoire, son balado que j'ai déjà parlé dans ma première saison. Je pense que c'était l'épisode qui s'appelle « Des balados pour tes oreilles ». Et c'est ça, donc j'avais parlé un peu de Charles Beauchesne, ce qu'il fait avec les pires moments de l'histoire. Je trouve ça vraiment intéressant. Je les écoute à chaque fois qu'il sort une nouvelle saison. Et je me suis rendu compte qu'il avait sorti un spécial sur la Révolution française. Au cours du 2e épisode, il va parler de une femme et d'une charte des droits des femmes. Puis, bon, dans la grande histoire de la Révolution française, c'est sûr qu'on va pas passer une demi-heure à en parler quand on essaye de faire un comme une série sur la Révolution française en tant que telle. Mais moi, j'ai eu envie d'explorer ça un peu plus, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on s'en va du côté de nos cousins français à un moment très déterminant de leur histoire où ce qu'ils essayent de reconstruire la société. Et bien sûr, si tu as écouté les épisodes de Charles Beauchesne ou si tu connais bien l'histoire de la Révolution française, il y a plusieurs hommes qui se sont mis ensemble, il y a plusieurs associations, clubs, si je peux dire, là, conseils qui se sont rassemblés et qui se sont dit « ben ok, on rebâtit notre société ». Pour que ça fonctionne puis que ça fasse notre affaire. Ce qui est très logique, hein, une révolution, c'est un peu ça le but, surtout au niveau d'un pays, ben on se reconstruit. Donc là, ces hommes-là se sont mis ensemble pour créer une charte des droits de l'homme et du citoyen. Et en réponse à ça, ben il y a une femme qui a fait la charte des droits de la femme, la déclaration. En fait, ils appelaient ça des déclarations, pas des chartes. Donc il y avait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis il y a une femme qui a décidé de faire aussi la déclaration du droit des femmes et de la citoyenne. Donc on va explorer ça un petit peu aujourd'hui. Et par politesse, on va laisser les messieurs commencer, mais c'est uniquement pour mieux leur répondre. Alors, on va commencer par explorer un petit peu c'est quoi l'histoire derrière ces déclarations-là. Puis, on va, je vais te lire aussi, on va regarder ensemble la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avant de se pencher plus du côté de ce que les femmes ont fait à ce moment-là. Et donc c'est ça. Fait que j'espère que tu es prête et que tu es prêt parce que on y va. Alors, commençons par le commencement. On va parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'en profite pour faire un petit aparté ou une side note en bon français. Je vais te lire des textes aujourd'hui que j'ai pris de différents sites web. Si tu souhaites lire ces articles-là par toi-même ou juste avoir les références, n'hésite pas à aller sur mon site web dans la section bibliographie et références. Tu vas avoir accès là, sous la section de la saison 2 à ces articles-là avec la description bibliographique et aussi les liens pour les consulter. Alors, fin de la note. Et maintenant, allons-y avec un texte que j'ai trouvé sur elysee.fr qui s'intitule « La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Inspiré de la Déclaration de l'indépendance américaine de 1776 et de l'Esprit des Lumières, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 marquait le début d'une ère politique nouvelle. Elle n'a cessé dès lors d'être une référence. La Ve République a explicité son attachement à elle en la citant dans le préambule de sa Constitution et le Conseil constitutionnel a reconnu en 1771 sa valeur constitutionnelle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est née à l'été 1789 du projet de l'Assemblée constituante formée par la Réunion des États généraux, de rédiger une nouvelle constitution et de la faire précéder d'une déclaration de principes. Les propositions affluent. L'Assemblée constituante charge 5 députés, Desmeuniers, Laluzerne, Tronchet, Mirabeau et Redon, d'examiner les différents projets de déclaration, de les fondre en un seul et de le présenter à l'Assemblée. Article par article, la Déclaration française est votée du 20 au 26 août 1789. 6 jours. Wow! À travers son préambule et ses 17 articles, elle définit les droits naturels et imprescriptibles, comme c'est dit, que sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Elle reconnaît l'égalité devant la loi et la justice et elle affirme le principe de la séparation des pouvoirs. Ratifiée seulement le 5 octobre par Louis XVI sous la pression de l'Assemblée et du peuple accouru à Versailles, elle sert de préambule à la première constitution de la Révolution française de 1791. Bien que le texte ait été bafoué par la suite par nombre de révolutionnaires et qu'il ait été suivi de deux autres déclarations des droits de l'homme en 1793 et 1795, c'est le texte du 26 août 1789 qui s'est imposé à la postérité. C'est lui qui a inspiré des textes similaires dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique latine tout au long du 19e siècle. Et c'est sur lui que s'appuient les constitutions françaises de 1852, 1946 et 1958. La Déclaration universelle des droits de l'homme, signée à Paris le 10 décembre 1948, tout comme la Convention européenne des droits de l'homme, née à Rome le 4 novembre 1950, revendique le même héritage. Alors, maintenant, on est rendu au texte de cette fameuse déclaration. J'ai l'impression qu'il faudrait que je la lise avec une voix très grave d'homme, mais je pense que ça serait pas très compréhensible. Donc, excuse-moi d'utiliser ma voix naturelle. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. OK, ça a l'air de rien, là, mais ça, c'est une phrase. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Article 14. Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Bon, alors maintenant qu'on s'est familiarisé avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aussi de l'histoire un peu qui entoure ces déclarations-là, je dis un peu parce qu'on a juste à peine effleuré la surface, juste pour se donner un petit contexte. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui et on va commencer à parler de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Alors, pour pouvoir comprendre cette déclaration-là, faut savoir d'où elle vient, mais aussi qui l'a écrit. Alors, je vais te parler un petit peu de Olympe de Gouges, qui est l'autrice de cette déclaration. J'ai trouvé un article sur elle dans les Essentiels BNF, donc de la Bibliothèque nationale de France, et c'est un article dans le dossier « La littérature en révolution ». Féministe, anti-esclavagiste, autrice prolifique, Olympe de Gouges incarne pour beaucoup la face féminine de la Révolution française. Mais son engagement remonte bien avant 1789. Fille non reconnue du poète Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, Marie-Gouze naît à Montauban en 1748 et est élevée dans un milieu modeste de langue et de culture occitane. Mariée à 17 ans, bientôt veuve et mère d'un fils, elle s'installe à Paris au début des années 1770. Elle tient salon, fréquente les milieux littéraires et monte sa propre troupe de théâtre. Sous le pseudonyme d'Olympe de Gouges, elle publie de nombreuses pièces, dont Zamoré et Mirza ou L'heureux naufrage en 1785, qui prend parti contre l'esclavage et que le théâtre français refuse tout d'abord de jouer. Mise sur scène 4 ans plus tard sous le titre L'esclavage des nègres, on s'entend que ce terme-là a été utilisé dans un contexte historique bien différent d'aujourd'hui. La pièce crée un scandale et les représentations s'arrêtent au bout de 3 jours. Olympe de Gouges publie également 2 romans, Mémoire de Madame de Valmont en 1788 et Le Prince philosophe en 1792, ainsi que des observations sur des sujets d'actualité, dont « Réflexions sur les hommes nègres » de 1788. Je suis pas certaine de ce que ça contient. Bon, là on se concentre un peu plus sur la partie de l'histoire qui nous intéresse. Avant la Révolution, Olympe de Gouges n'a pas caché des vues ouvertement abolitionnistes et féministes. Les événements révolutionnaires lui offrent l'occasion de participer plus activement encore au débat d'idées. Pamphlétaire redoutable, elle publie à son compte un très grand nombre de brochures et de placards. En septembre 1791, elle fait paraître la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui rappelle que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Proposée pour être débattue à l'Assemblée nationale, elle est alors tirée à 5 exemplaires. Conçue en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le texte est adressé à Marie-Antoinette, à l'heure même où la Constitution est présentée à Louis XVI. Il compte 17 articles suivis d'une proposition pour un nouveau contrat social entre les hommes et les femmes. Olympe de Gouges y conteste le caractère universaliste de la Déclaration de 1789 et dénonce l'exclusion des femmes de la représentation nationale. Elle réclame pour elle la citoyenneté et les droits qui en découlent. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également le droit de monter à la tribune, affirme l'article 10. Opposante résolue à Robespierre et aux Montagnards, Olympe de Gouges est arrêtée comme girondine, puis guillotinée le 5 novembre 1793. Quelques extraits de sa déclaration sont redécouverts et publiés en 1840, avant que Benoît Groux ne fasse connaître le texte dans sa totalité en 1986. Alors, nous voici officiellement rendus à l'endroit dans la capsule où je te lis la fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. À décréter par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celles de la prochaine législature. Préambule. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, on résolut d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, et soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Article 5. les lois de la nature et de la raison défendent toute action nuisible à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par ces lois, sages et divines, ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas. Article 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article 7. Nulle femme n'est exceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent, comme les hommes, à cette loi rigoureuse. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes. Article 9. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également le droit de monter à la tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient », sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure. Cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de celle à qui elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Article 14. Les citoyennes et citoyens ont le droit de contester par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt. Article 15. La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. Article 17. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés. Elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Postambule. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous recueillez dans la révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit, que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana? Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? » Tout, auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinent dans leur faiblesse à mettre cette inconsistance en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non-serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société. Et puisqu'il est question en ce moment d'une éducation nationale, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis. Elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu, pendant des siècles, de l'administration nocturne des femmes. Le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion. Ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat. Enfin, tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et, depuis la Révolution, respectable et méprisé. Ouf, je pense que on pourrait déballer beaucoup et longtemps sur la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne par Olympe de Gouges. Comme j'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui, je voulais simplement te partager cette déclaration-là. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin, heureusement, depuis 1789, quand ça a été écrit. Mais je trouvais ça vraiment intéressant de voir Olympe, puis comment elle a pris les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, juste pour inclure les femmes et s'assurer qu'elles ont une place respectable et égale dans la société. Je trouvais ça intéressant de voir que elle, en général, écrase pas les hommes, dans le sens que c'est pas qu'elle veut que la femme devienne supérieure, elle veut simplement que la femme devienne égale. Petite note, quand dans sa déclaration, elle parle de l'être supérieur, elle parle de Dieu à ce moment-là, elle parle pas des femmes. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis c'est beau de voir comment ça l'a évolué aujourd'hui. Puis je trouve que c'est vraiment un bel exemple de à quel point en tout cas à mon humble avis, le pas à faire pour inclure davantage les femmes est pas très grand. Elle a simplement pris les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis elle a simplement ajouté les femmes. Puis ça, je trouve ça vraiment... je trouve ça, de un, très intelligent. Puis je trouve ça vraiment intéressant de voir comment elle le fait. Et c'est ça. Je pense que pour cette époque-là, c'était quelque chose de vraiment intéressant à faire. Dommage qu'elle ait été guillotinée. Je pense que c'était une femme très passionnée de politique, de société, d'égalité. Je connais pas la partie de l'histoire, de son histoire à elle, où on parle de l'esclavagisme et tout ça. Donc, je vais pas me prononcer sur ce côté-là, mais du côté féministe, je trouve ça vraiment intéressant. De voir comment elle a fait ces choses, puis avec ses pamphlets et tout, je pense qu'elle a vraiment bien saisi l'opportunité que la Révolution française apportait de rebâtir une nouvelle société. Parlant de rebâtir une nouvelle société, je sais pas si t'es une ou un nouveau auditeur et auditrice. Je sais pas si tu as écouté l'épisode de la saison 1 de Révolution. En fait, j'ai deux épisodes sur Révolution. Et en fait, c'est un livre de Nicolas Dickner et Dominique Fortier qui va prendre le calendrier révolutionnaire et ils vont faire un projet d'écriture avec ça que je parle dans l'épisode. Et c'est ça. Les révolutionnaires ont décidé non seulement de créer des déclarations de droits et de rebâtir la société française de A à Z, ils ont aussi décidé de faire leur propre calendrier. C'est pas un calendrier qui a duré très longtemps, mais c'est super intéressant de voir les valeurs qu'ils ont imbriqués dans leur calendrier, si je peux dire. Puis, j'en parle surtout dans le premier épisode de la série que j'ai faite sur Révolution. Donc, je te suggère d'aller écouter l'épisode si tu l'as pas déjà fait ou d'aller te rafraîchir la mémoire parce que, sérieusement, c'est vraiment intéressant. Puis, je trouve ça le fun de pouvoir me familiariser plus avec ce côté-là de l'histoire. Bon, j'avais déjà entendu parler là de la Révolution française et tout au travers de mes cours d'histoire, puis en grandissant. Mais d'avoir comme ce regard-là adulte sur une déclaration de droit, sur un calendrier, je trouve ça vraiment intéressant à voir. Donc, écoute, je vais te laisser là-dessus. J'espère que tu as eu une belle journée internationale du droit des femmes. J'espère que cette journée-là n'est pas un sujet de colère ou de débat pour toi. Je pense que tout être humain a besoin d'être reconnu à sa juste valeur, les hommes comme les femmes. Puis, je trouve ça intéressant d'avoir une journée pour le droit des femmes, un peu comme on a un mois pour l'histoire des Noirs et une journée de la vérité, de la réconciliation, etc. Je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir se pencher un petit peu là-dessus. Puis, si comme moi, t'es pas très porté sur la politique, l'histoire peut toujours nous apporter des aspects intéressants à réfléchir. Alors, je te laisse là-dessus. Écoute, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Instagram. Si tu veux aussi, tu peux nous envoyer un courriel à découverte@frédéric.com. Et c'est ça. Écoute, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de quand est-ce que tu m'écoutes. Puis on se retrouve dans la prochaine capsule. Bye!